La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes lippes.
Et la musique, et la musique va.
Tout pour la musique.
La musique, en vérité, la musique.
Let's face the music and dance.
Sur écoute, Elisabeth Chungi.
Bonsoir, souriez, vous êtes sur écoute. Sur écoute, le nouveau magazine musical de France Culture. Un œil sur l'actualité de la musique, un œil sur les tendances musicales et le troisième sur le monde par le prisme de la musique. Aujourd'hui, voyage généalogique dans la nébuleuse des musiques électroniques. Alors que la technoparade fête ses 15 ans dans une ambiance bon enfant sortie familiale dominicale, alors que l'électro prend d'assaut en tout bien tout honneur des vieilles dames respectables, le Grand Palais ce soir pour la nuit SFR Live, nous nous interrogerons que reste-t-il de l'élan subversif de l'utopie collective des débuts de la techno et qui sont les enfants de cette matrice bouillonnante, les légitimes, les bâtards et les autres. Nous en parlerons tout à l'heure avec Guillaume Kosmicki, musicologue, auteur de deux ouvrages de référence sur le sujet, Free Party, une histoire des histoires et musique électronique des avant-gardes au dance floor, tous deux aux éditions Le Mot et le Reste. Nous en parlerons aussi avec deux musiciens, deux héritiers qui incarnent deux mouvances radicalement opposés, Crayon et Yank and Pop. Mais avant de s'adonner aux rythmes hypnotiques, sur écoute, écoute le monde. Demain, notre concubin, notre paxé pour le pire au passé et pour le meilleur à l'avenir, se rend aux urnes. Élection pour le Bundestag en Allemagne. L'occasion d'une promenade musicale outre-Rhin en compagnie du plus berlinois des musiciens français, Kent. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Kent, vous sortez après-demain une édition limitée de votre dernier album, Le Temps des âmes, une version vinyle aussi. Le Temps des âmes, un album à la fois rigoureux et flamboyant qui m'a plongé à peu près dans les mêmes abîmes existentiels que 2001, l'Odyssée de l'espace. Et un album piano-voix avec un pianiste allemand, Marc Hausmann. J'aimerais que vous nous racontiez cette rencontre. J'imagine une stube dans l'ex-Berlin-Est, boiserie patinée, âme mélancolique.
Non, ce serait plutôt squat plutôt que stube. Oui, c'est Marc, je le connais depuis en fait une dizaine d'années maintenant, parce que je vais à Berlin depuis une dizaine d'années. Et je l'ai connu comme musicien électro, justement, arrangeur, minimaliste pour chanteurs et chanteuses. Et je le savais pianiste, mais j'avais jamais entendu. Et un jour, je l'ai entendu jouer du piano parce qu'il s'était remis, après avoir fait beaucoup d'électro, au piano classique. Et j'étais un peu subjugué par son jeu et je lui ai proposé de faire un piano-voix à Berlin, au Corbeau, un cabaret berlinois dans le sud de Kreuzberg. Pour être plus précis, en bas du Görlitzer Park, voilà.
Qui est un quartier un peu bobo aujourd'hui. Hein.
Oui. Et ce coin-là est encore sauvage parce qu'il est vraiment à la lisière du bois de Treptow Park. Mm-hmm. Donc, même pour trouver le cabaret, c'est un peu dur. Enfin bon. Et on me proposait deux dates là-bas. Et j'ai dit à Berlin, j'ai dit à Marc.
Joli lapsus, il incarne l'âme berlinoise, ce garçon.
Ouais, je crois. J'ai dit à Marc. Tiens, si on faisait du piano-voix, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, et puis et toi, peut-être pas non plus. Quoi. Et donc, on a répété des chansons, notamment des nouvelles chansons que j'étais en train de faire, et j'ai été totalement transporté par les concerts. Avec Marc, c'était une révélation. Mais vraiment, sur scène, pendant les répétitions, on s'est rendu compte de rien, mais sur scène, on s'est rendu compte de quelque chose qui était extraordinaire, quoi, vraiment, un truc. Et donc, on est parti en studio ensemble, et on a fait le disque comme ça, c'était très spontané, quoi.
On écoute un extrait où vous nous emmenez à Berlin, justement, Ombre berlinoise.
Je t'offre une ombre berlinoise en plein été continental, une longue blonde qui pavoise sur un Pégase à pédales. Je t'offre des rues nonchalantes, des rires dans les kindergarten, un mur qui me rend plébéante, une Europe unter den Linden. Je t'offre de côté du monde, sur les bords du Landwehr-Canal, quand l'Est et l'Ouest se se confondent, l'Orient tire une diagonale, je t'offre Rosa Luxembourg, qui n'est plus qu'une fille de rue. Mauer Park et alentour où j'envisage l'inconnu. Je t'offre les ailes du désir, un air de Johnny Spieltauf, la vie des autres à retenir, tous les avions de Tempelhof, les piercings et des tatouages, des cheveux rasés, des cheveux teints, toute une Babylone en voyage et des bières jusqu'au petit matin.
Ombre berlinoise, un titre aux accents très bohème, cette bohème qu'on trouve encore dans quelques quartiers de Berlin, plutôt à l'est d'ailleurs, beau et pas encore bobo. C'est cet aspect que vous aimez dans cette ville, ou c'est plutôt, Kent, cette sensation d'être encore en zone tellurique, c'est-à-dire à l'exact endroit d'une faille est-ouest?
Ah, j'aurais bien aimé aller plutôt à Berlin pour effectivement plus sentir cet aspect-là de Berlin. Il se trouve que ma vie s'est pas prêtée à ça. Je sais pas ce que je recherche à Berlin, je sais juste que je m'y sens bien. Voilà, quoi, c'est tout. Je ne suis pas allé là-bas pour à la recherche de quelque chose de spécial ou d'un passé. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on parle des bobos, mais il y a aussi cette nostalgie hostie voilà, qui touche un peu toute l'Europe, pour ceux qui n'ont pas connu l'Est, du moins. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'Est à l'époque du rideau de fer, parce que j'avais des amis en Roumanie, et donc je suis allé assez souvent en Roumanie à cette époque-là. Je ne peux pas dire qu'effectivement,
on peut être nostalgique de ça.
Il y a des chances, oui, il y a des chances, mais on n'a pas cherché avec mes amis à savoir où était mon dossier. Bref, donc voilà, Berlin, je m'y sens bien. Voilà, Berlin, c'est une copine. C'est vraiment, je le sens comme ça. Pour moi, les villes ont une identité, comme Paris reste pour moi une collègue de bureau, je vais dire. J'ai beau y être depuis plus de 20 ans.
Un peu revêche parfois.
Non, pas revêche, mais bon, ça va pas plus loin. Je l'emmène pas avec moi en vacances. Mais Berlin, par contre, j'aime bien passer du temps pour me ressourcer, pour me changer les idées, ou plutôt pour me les mettre au clair, à dire vrai.
On est très heureux de faire cette balade en musique outre-Rhin et à Berlin en particulier avec vous et avec la journaliste Lisa Ducret aussi qui vit à Berlin, que l'on entendra tout à l'heure. Heureux de faire cette promenade qui va sans doute nous permettre de mettre à jour nos connaissances, parce qu'au rayon musique von Deutschland, ici en France, nous en étions restés à ceci.
Afghanisches Gras, ein Plätzchen für mein Schätzchen, Cannabis in Holland, Mamani auf der Venus. Oh, we wanna go to Africa, to the black Jaguar.
C'était en 1980, African Reggae, Nina Hagen, icône punk, toujours en activité aujourd'hui, qui marche toujours très fort en Allemagne, et qui d'ailleurs, à propos du scrutin de demain, a manifesté sa sympathie pour les Verts et n'y voyait aucun rapport avec ses teintures de crête d'antan. Et depuis, nos connaissances en musique germanique se résumaient à Falco, Der Kommissar, seul chanteur germanophone à s'être classé au sommet du Billboard américain, Nena, Neun in Aussicht Luftballons, Les Scorpions, Tokyo Hotel plus récemment, je vous ai parlé des extraits. Kent, je pense que vous avez mieux à nous proposer.
Oui, c'est pas ce que j'écoute le plus en musique allemande. Non, moi, le groupe qui m'a le plus subjugué, c'était Ein Sturz unter Neubauten. Voilà. Cela, quand je les ai découverts deux fois. J'ai découvert une première fois dans leur époque brutiste, proto-punk, en première partie de Depeche Mode. Ils m'ont mis sur le cul et je ne comprenais rien. Et je me demandais à qui j'avais affaire parce qu'ils avaient quand même des allures assez provocatrices, on va dire, ambiguës, voilà, quoi, un peu trop allemand. Et du moins, l'idée qu'on s'en fait, la mauvaise idée qu'on s'en fait. Et puis, je n'ai pas retenu le nom, évidemment, c'était un peu trop compliqué. Et quelques années plus tard, chez un disquaire, à Paris, chez Parallèle, pour faire un peu de la pub, j'ai entendu un disque qui passait et j'ai demandé ce que c'était, parce que ça me plaisait beaucoup, et c'était eux, Ein Sturz unter Neubauten. Et je me suis, là, vraiment intéressé au groupe et à fond, et j'ai adoré, parce que vraiment, c'est tout, comment dire, ils sont vraiment dans la continuité du krautrock allemand, qui était une musique totalement en réaction à, qui pouvait pas exprimer des sentiments, quoi. Ils avaient, comment dire, cette génération-là ne pouvait pas faire des chansons parce que leur passé leur avait été volé. Les chansons allemandes se sont arrêtées avant-guerre. Les bons compositeurs, les bons auteurs ont été obligés de s'exiler ou ont fini dans des camps. Donc après, il restait des musiciens et des chanteurs officiels qui, évidemment, n'ont plus eu le droit de citer après. Et il y a eu une espèce de mutisme qui s'est emparé
paroles confisquées.
Voilà, des jeunes créateurs, à part s'appelle la Schlag Musik, c'est-à-dire la grosse variété, celle-là a continué, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle se porte si bien, c'est parce qu'elle elle a pu proliférer toute seule. Mais les jeunes Allemands qui ont voulu exprimer autre chose ne savaient pas comment et quoi exprimer. Donc ils ont inventé ce krautrock qui était une musique électronique pratiquement sans parole, la plupart du temps, ou alors des onomatopées, des choses comme ça, pour Kahn ou Amundul. Et puis, bon, Ein Sturz unter Neubauten arrive 15-20 ans après, je trouve, sont dans la continuité parce qu'eux, ils vont encore plus loin. Ils se servent même plus au départ d'instruments de musique. Ils se servent de ce qui leur tombe sous la main, c'est-à-dire des pierres, des barres de métal. Ils vont piquer sur les chantiers des marteaux-piqueurs et font de la musique avec ça. Ils ne savent pas jouer de guitare, ils prennent une guitare, ils ne l'accordent pas, ils font du bruit avec. Voilà.
Et je trouvais assez violent et quelque chose assez SM même parfois.
Ouais. Et quand on voit 30 ans plus tard ce qu'ils sont devenus, je trouve que c'est une carrière incroyable. Je les adore.
Et oui, justement, l'un des membres du groupe, c'est le très charismatique Blixa Bargeld, qui a aussi été, d'ailleurs, pendant plus de 20 ans, le guitariste de Nick Cave and the Bad Seeds. Et il a sorti tout récemment, Blixa Bargeld, un album avec un autre alchimiste post-rock italien, cette fois-ci, Teo Teardo. On écoute Mi Scusi.
Mi scusi, mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così, non intendo offenderla. L'accento, quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, dopo. Mi scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano.
Voilà donc Blixa Bargeld, Mi Scusi en italien. On revient à l'allemand. Vous disiez tout à l'heure, Kent, qu'il y avait toute une génération qui avait été comme frappée de mutisme et ceux qui chantaient dans la jeune scène le faisaient en anglais majoritairement. Et aujourd'hui, nouvelle tendance, la chanson germanophone se porte bien. C'est donc en tout cas ce qu'on va voir avec Lisa Ducret, qui est journaliste freelance à Berlin et responsable de la rubrique musique du guide culturel francophone Berlin Post. Bonjour Lisa.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Il semble donc que la scène allemande redécouvre sa langue aujourd'hui, la jeune scène allemande.
Exactement. Alors récemment, l'Institut Média Control a publié une étude pour le magazine Focus, et il s'avère que plus de 43% des singles les plus vendus en Allemagne sont des titres germanophones. C'est un chiffre en fait qui est le double de ce qui était le cas il y a 10 ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas ce qu'on appelle le Schlager. Le Schlager, c'est la chanson folklorique allemande avec les nuques longues, les moustaches, les accordéons. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de la pop. Alors les gros noms comme Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg ou Die Totenhose avaient déjà fait les marques en fait de cette chanson pop allemande, mais aujourd'hui on se rend compte que il y a un retour assez important. Alors pourquoi? Je pense que la langue allemande a été longtemps stigmatisée à cause du rapport avec le régime national-socialiste hitlérien. Aujourd'hui, la nouvelle génération réussit à mieux vivre avec ce passé. Et je pense que comme dans tous les pays, il est quand même plus facile de chanter et de comprendre des paroles dans sa langue maternelle. Donc ça pourrait expliquer le retour de la langue allemande.
Voilà.
Oui. Après, je voudrais dire aussi que je pense que d'un point de vue plus technique, la production musicale en Allemagne s'est quand même nettement améliorée. Et aujourd'hui, elle n'a plus rien à envier au marché américain. Donc, ce qui n'est pas étonnant que l'Allemagne maintenant mette sa langue plus en avant que des artistes anglophones.
Et alors, puisque nous sommes à la veille des élections en anglais ou en allemand, les musiciens se sont-ils engagés pendant cette campagne qui s'achève ?
Ah, oui, je pense que... Comme partout, l'insatisfaction politique se fait entendre, et en Allemagne également. Alors entre les promesses pas toujours tenues des politiques, les camps qui ne sont plus clairement définis et le paysage politique qui n'est pas assez hétérogène, les musiciens n'ont plus envie de soutenir un parti, mais par contre ils s'engagent vraiment et expriment leurs idées dans leurs textes et dans leur musique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des maisons de disques indépendantes, comme par exemple le label hambourgeois Audiolith, qui affichent clairement leur couleur politique. Dans ce cas précis, c'est gauche, voire extrême gauche, participent à de nombreuses manifestations, des actions sociales. Et la palette d'artistes qu'ils représentent est également très engagée dans ses textes et dans sa musique, comme par exemple, on pourrait citer Tuba ou Frittenbude.
Justement, nous allons écouter un titre de Frittenbude, donc un groupe de ce label, repère de gauchistes, dirait certains, Einfach nicht leicht.
Das ist schon Regen, du meinst, das ist noch Sturm. Irgendwo sind sie gefroren, unsere Spuren dort, wo wir gefahren sind, dort, wo wir verloren gehen. Sie legen sich hin, egal wo die gefahren sind. Solange wir uns bewegen, sind wir nur die Passanten. Auf dem Gehweg des Lebens, auf dem Feldweg der Zeit, ticken andere Uhren und Eile verweilt. Es fahren andere Linien als auf all den Trabanten aller verbannter Gedanken. Wir fanden einen Schatz inmitten von Schrott. Auf einer Ansichtskarte vermerkt Fundort Flaschenpost.
Der Kopf ist frei, doch das Herz ist so schwer. Es könnte leicht sein und es wird immer mehr. Alles ist so schnell vorbei, wie die Zeit, die verstreicht. Komm, wir machen es uns auch einfach nicht leicht. Der Kopf ist voll.
Ah, c'était Frittenbude. Merci beaucoup Lisa Ducré pour ce point. Lisa Ducré, journaliste à la rubrique musique du guide culturel francophone Berlin Poche. Alors évidemment, qu'il est impossible de parler de la scène musicale allemande sans parler de techno, musique électronique. Vous disiez d'ailleurs que le pianiste avec qui vous avez enregistré Le Temps des âmes venait de la scène électro. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il a eu envie de retour à des sons plus classiques, un piano classique?
Il a eu envie, c'est tout. Je crois qu'il n'explique pas, c'est comme ça. À un moment donné, il avait envie quelque chose d'organique, de retrouver de ce qu'il avait appris auparavant. Voilà, il n'avait pas touché de piano depuis des années et ça l'a titillé. C'est normal, hein, c'est comme ça.
Retour à quelque chose d'organique. Vous dites donc, vous faites donc partie de ceux qui pensent que la techno reste très minérale. Enfin, ça dépend des courants, on va en parler justement.
Oui, je sais pas. Moi, je maîtrise pas assez ce genre pour parler comme ça, quoi. Je peux pas dire. J'ai un regard extérieur à ça. Quand je me retrouve avec des appareils pour, je m'étais acheté justement à Berlin un Chaospad pour faire des essais dessus. Je vois, ça fait des sons, mais je ne saisis pas, comment vous dire. C'est un peu. c'est un peu comme si il me manquait une dimension. C'est un peu comme si je voyais en 2D alors que c'est un truc en 3D. Voilà. Mais avec les oreilles, ça va, mais les doigts ne suivent pas. Voilà. Je ne sais pas bien faire ça. Cela dit, j'avais fait il y a quelques années un disque de chansons électro qui avait été plutôt mal vu, puisque dans mon domaine, l'électro est banni quand on est chanson française. Enfin, du moins à cette époque-là.
Ah, ce pays de tiroir, n'est-ce pas ?
Du moins à cette époque-là, parce que les choses sont en train de changer, heureusement. Et j'avais fait un disque avec des machines, on m'était enfermé pendant une semaine avec des musiciens, et on avait improvisé un album comme ça. Et c'était assez intéressant, sauf qu'évidemment, c'était quelque chose de très bâtard, pas du tout apprécié par la scène électro, puisqu'il y avait des paroles et des chansons, donc aucun sens. Et puis en plus, les rythmes n'étaient pas les bons, on savait pas dans quel genre m'arranger. Et puis du côté de la chanson française, c'était quoi ? Qu'est-ce que c'est son ? Mais c'est pas possible, oui, pour qui il se prend ? Enfin bref, bon voilà. Pour dire que ça m'intéressait, mais que je ne maîtrise pas le sujet, je suis un bâtard.
On va écouter Guillaume Kosmicki, qui est avec nous également, musicologue et spécialiste des musiques électroniques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
On va passer pas mal de temps ensemble en deuxième partie d'émission, mais je voulais juste, puisqu'on est toujours en Allemagne, à Berlin en particulier, que vous nous expliquiez pourquoi la techno avait véritablement pris racine là-bas. Hein. Le premier grand rassemblement techno en 1989, c'est la très célèbre Love Parade. Donc pourquoi elle a pris racine là-bas et pourquoi elle continue de s'y épanouir autant ?
Ah bah y a pas de hasard. Hein. C'est vrai que l'Allemagne a été un pays extrêmement important, en tout cas au XXe siècle, dans le développement de ces musiques électroniques qui ont été si importantes pour le siècle. Elle y a pris part très très tôt dans le siècle, dès les années 20, parmi les premiers instruments électroniques qui sont créés. Et ben on en trouve beaucoup qui arrivent de Berlin. Ce Berlin qui est si vivant, ce Berlin des cabarets, ce Berlin de la recherche et de l'expérimentation. Donc c'était tout à fait presque naturel qu'on y expérimente aussi ces nouvelles technologies. Et puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans cette volonté de reconstruction, cette volonté de repartir à zéro, d'une table rase, beaucoup de très jeunes compositeurs se sont intéressés de plus près encore à ce média électronique. Et les premiers laboratoires ont été créés. Parmi les premiers qu'on trouve dans le monde, on trouve les laboratoires notamment de Cologne, de la Westdeutsche Rundfunk, de la radio ouest-allemande. Et on trouve des noms qui vont marquer très largement la deuxième moitié du XXe siècle, comme Karlheinz Stockhausen, qui a été vraiment une personnalité très très importante dans les musiques contemporaines, mais qui a su toucher, on va dire, à la fin des années 60, beaucoup de jeunes intellectuels, beaucoup de jeunes gens qui s'intéressaient au rock, qui mélangeaient ça avec la contre-culture, l'envie de changer le monde, et qui trouvaient aussi dans leurs aspirations, dans leurs recherches, le média finalement qui pouvait aussi les porté dans ses valeurs. Et on a beaucoup de groupes, justement, Kent parlait du krautrock, de groupes comme Cannes, comme Kraftwerk, et tant d'autres encore dans les années 70, qui ont trouvé une source d'inspiration, justement, dans ces laboratoires du nord de l'Allemagne, de la RDA, dans ces laboratoires de Cologne, de Düsseldorf, et qui se sont initiés eux-mêmes à ces technologies électroacoustiques, et qui ont inséré ces synthétiseurs très, très, très largement dans leur rock, dans leur musique. Ce qui fait que l'électronique a été partout très très largement diffusée dans les années 70 en Allemagne. C'est donc tout à fait naturel.
Tous les ingrédients étaient là pour l'explosion de la techno au moment de la chute du mur.
Absolument. Il y avait même un club qui s'appelait, dans les années 80, qui s'appelait déjà le Techno Club. Le mot techno était déjà très très présent dans la culture pop allemande. Et finalement, lorsque est revenu, et on pourrait dire presque revenu, d'Amérique, de Chicago, de Détroit, des musiques qui étaient passées au filtre de créateurs afro-américains, donc ces musiques house, ces musiques techno dont on a parlé à la fin des années 80, finalement, elles revenaient aussi avec beaucoup, beaucoup d'influence. Tirer des musiques de l'Allemagne, des musiques de Kraftwerk. Et c'est tout à fait naturellement, finalement, que l'Allemagne a renoué avec cette culture passée au filtre de l'Amérique. Et c'est tout naturellement que beaucoup d'artistes américains se sont retrouvés à jouer dans des clubs allemands et ont été d'ailleurs subjugués eux-mêmes, assez interloqués par le succès qu'ils pouvaient y rencontrer, parce que c'était tout à fait surprenant pour eux qui ne savaient pas, finalement, à quel point leur musique touchait en Europe.
Et c'est exactement ce que dit le producteur Marc Schrieder dans un livre de témoignages sur la révolution techno à Berlin au tout début des années 90, qui paraît chez Alia début octobre, Der Klang der Family, je le cite. J'avais envie de fonder un label techno en RDA pour pouvoir sortir la musique des kids de l'Est. Ils étaient libres, ils n'avaient plus de loi, plus de règles. Ils étaient en quête de lieux, de fêtes, de drogue. Plus rien n'était comme avant. Le futur avait l'air brillant. La musique se devait de le refléter. Je me disais, voilà la bande originale de la chute du mur. Et donc, comme vous le disiez, Guillaume Kosmicki, ce terreau, cette culture électronique très ancienne, ça va donner une sonorité très particulière à la techno allemande qui va se singulariser par rapport à la musique de Detroit par un son très métallique et minimaliste. Et je voudrais qu'on écoute la grande star outre-Rhin dont la musique est très représentative du genre, c'est Atom TM. On écoute Ich bin mein Machine.
Herz und ich bin meine Maschine. Vierzig Herz und ich bin meine Maschine. Herz und ich bin meine Maschine. 100 Herz und ich bin meine Maschine.
200 Atom, je suis ma machine. C'est presque un sujet de bac philo, Kent.
Oui, c'est ça. Oui. Où commence et où s'arrête la machine dans l'œuvre humaine.
Ouais. On continue cette promenade tout à fait subjective au cœur de la scène musicale allemande. Alors, sujet qui s'est invité dans la campagne pour ces législatives allemandes, c'est l'immigration. Un habitant sur cinq aujourd'hui est issu de l'immigration. Confronté au vieillissement de sa population, à une pénurie de main-d'œuvre, l'Allemagne a opté pour l'immigration choisie, mais l'intégration ne va pas de soi. Citoyen de seconde zone, c'est le thème récurrent des rappeurs d'origine turque ou kurde. Les Kurdes constituent encore une minorité dans la minorité. On écoute une pionnière de la scène rap turque, Aziza A.
Çok kalbini dinle Suladığın gonca hiç oğulları görmez Açılmış çiçeği koparmadan kimse geçmez İçten gelen güzellik dışa vuruyor Her kafadan çıkan sesi dinlersen Kalbine giren güzellik şamarlanır Hislerin kabarır, hislerin kabarır Dinlediğince kendin olsun Düşüncelerin kalbine dolsun Onun için bak yanaş konuş sokul tutul Önem ver açıl ateşlen tutuş Kime mi benden cevap bekleme Kalbini dinle üf deme oh de Kalbini dinle üf deme oh de
Et pour clore cette balade, j'ai trouvé un couple franco-allemand, un peu comme celui que vous formez avec votre pianiste Mark Hausmann, Kent. Un couple franco-allemand plus sexy que Merkoland. Ils s'appellent Zweier Pasch. Ce sont des rappeurs qui sont jumeaux. Ils sont originaires de Fribourg, pas loin de la frontière, donc. Et ils rappent dans les deux langues. Leur démarche est intéressante parce qu'on n'est ni dans le commémoratif, ni dans la coopération économique, ni dans la repentance. On est vraiment dans le présent, dans la construction d'une culture commune. On écoute leur titre frontalier, Zweierpasch, Grenzganger.
Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat.
Non. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und dépassent les frontières, on fait tomber les barrières, Grenzgänger, on est les frontaliers, le rap, le langage, les mots, les bagages. Ich bin Grenzgänger, Frequenz auf zwei Sendern, grenzüberschreitend geerdet in zwei Ländern. Durch meine Wurzeln geprägt, Gefühl von Heimat, wo steht im Hang zum frankophilen Ein Être jeune, grand voyageur, j'explorais. Une grande passion, la France m'a vraiment fasciné. Attiré par l'altérité de l'étranger, j'ai commencé à osciller comme un frontalier. Wir überschreiten Grenzen, die Tesla damals in Rubicon. Metallermauern bekämpfen wir mit dem Lexikon. Und der Rapmusik, Texte auf fetten Beats. Auf der Französisch und Deutsch, weil es den Flavor gibt. Er lockt mir fasziniert wie la CO2 pays. Il faut je grâce à la musique, je réfléchis. Sur la vie, les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit de notre frontalier.
Grenzganger avec en featuring le général de Gaulle et Konrad Adenauer, excusez du peu. C'est fou à quel point finalement, même musicalement, on l'a entendu dans votre titre, Quintombre berlinoise, le français et l'allemand se marient extrêmement bien. On a beaucoup glosé sur le peu de musicalité de la langue allemande. C'est complètement faux quand on vous entend, quand on entend Zweierpasch.
Oui, parce que c'est les caricatures qui priment. On a ri de l'allemand comme on peut rire du français quand on est en pays étranger en nous imitant. Oh là là, oh bah, bon, bon, bon. C'est comme ça qu'ils font les pour nous caricaturer, quoi. Mais à partir du moment où on parle, où on chante en allemand, tout passe. Mais ce que je m'en rends compte, c'est justement comment on est tenté quand on sait plusieurs langues d'avoir envie de les mélanger quand on chante. C'est ça, c'est un truc. C'est marrant parce que j'ai tendance à lutter contre et je me demande pourquoi je lutte contre cette envie de commencer une phrase dans une langue et puis passer dans une autre, parce qu'il y a des fois des mots qui sont mieux dans l'autre langue que dans notre langue propre. Et, enfin, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose à creuser, ça.
Voilà, lâchez-vous donc là-dessus, sur le prochain album.
C'est ça.
Donc, nous allons passer ensemble à la deuxième partie de l'émission, sur écoute, décode les rythmes. D'entendre Duellum, quatuor français électro-rock qui a les honneurs des radios britanniques, c'est dire. Le titre, c'était Nothing But Noise, rien que du bruit. C'était ce qu'on disait, des rêves et free parties d'antan, avant d'ajouter et des nuisances, bien sûr. Aujourd'hui, la techno parade a des allures de kermesse baptiste et la techno s'invite dans les institutions, le Grand Palais à Paris ce soir pour la désormais traditionnelle nuit SFR Live et son off sur les quais de Seine. Alors que reste-t-il de la dimension subversive de la techno, de l'idéal communautaire communautaire des Free Parties. Et quelles têtes ont les enfants de la techno, ceux qui n'ont pas connu l'ivresse de la trance dans la gadoue, un soir d'automne dans un champ de luzerne en jachère, mais qui en sont néanmoins les héritiers? On en parle avec Guillaume Kosmicki, musicologue, auteur de deux ouvrages de référence sur le sujet, Free Party, une histoire des histoires, et Musique électronique, des avant-gardes au dance floor, tous deux aux éditions Le Mot et le Reste. On en parle aussi avec deux musiciens, deux héritiers qui incarnent deux mouvances opposées. Crayon, qui est à l'affiche ce soir de la nuit SFR Live, dans le off sur les quais de Seine, bienvenue. Et Young and Pop, un ancien des Beaux-Arts qui livre des performances d'art numérique underground entre musique et vidéo. On vous retrouve d'abord, Guillaume Kosmicki, car outre votre casquette de musicologue et érudit, vous avez été un activiste des Free Parties du mouvement techno de la première heure. On sait que depuis, la répression est passée par là. Alors pourquoi, pour quelle cause exactement militiez-vous à l'époque? Et aujourd'hui, y a-t-il encore des poches de résistance en France?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est vrai que quand on utilise le terme de militer, on fait référence à des choses plus rangées, plus classiques. On pense à des partis, on pense à des associations, des partis politiques ou des associations. Un militantisme, on va dire, organisé, formalisé et inséré, on va dire, dans une société donc qui l'accepte, qui lui laisse une place. Or, si on peut parler effectivement d'un engagement dans ce qu'a été la Free Party, dans la Free Party, peut-être le terme de militantisme s'applique pas tout à fait. C'est une forme de militantisme, donc avec des guillemets, mais qui s'applique dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui se vit du matin au soir par des individus, des jeunes gens qui ont décidé de vivre autrement, vraiment de sortir des codes et des normes de la société, hein, dont par exemple, hein, parmi les plus étonnants, hein, de leur choix, le fait de vivre de manière nomade dans une société qui a tout basé sur le sédentarisme, et puis de vivre aussi sans travail salarié, sans salaire fixe, en fait, de vivre justement de bidouille et d'un système comme ça, un petit peu au jour le jour, au travers du voyage. Donc c'est un militantisme au quotidien, j'aime à dire ça, dans lequel, en fait, on peut, dès 6h du matin, 7h du matin, voir entendre taper au camion peut-être des forces de police dans l'endroit où on se trouve, croiser des regards parfois très négatifs dans les endroits où l'on passe. Donc quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la réunion, de la formalisation d'idées comme ça pour un futur, mais vraiment d'un engagement dans la vie de tous les jours.
Donc oui, il y a encore des poches de résistance. Vous êtes en duplex de Rennes et vous nous disiez qu'il y avait encore des sound systems tout récemment encore, bon, qui ne s'est pas très bien terminé. Mais voilà, que ce mouvement survivait, mais de manière un petit peu éclatée.
Ce qui m'a beaucoup surpris, moi, quand j'ai rassemblé les témoignages de Free Party, donc je voulais absolument avoir un petit peu les dernières générations. Mmh. Hein, c'est des témoignages qui s'étalent, on va dire, de 1985 jusqu'à 2010, donc qui couvrent une très longue période. Et je m'attendais, moi qui avais un petit peu quitté ce monde, qui était allé vers d'autres univers musicaux et sociaux, je m'attendais quand même à ce moment-là à trouver un mouvement en décrépitude, un mouvement qui vivait ses derniers feux. Et j'ai été très très surpris, effectivement. Ça s'est passé en grande partie en Bretagne, où je me suis installé récemment. J'ai été très surpris de croiser de très nombreux sound systems, dont des récents, c'est-à-dire qui sont nés après les lois françaises les plus répressives, celles de 2001, qui sont nés au cours des années 2000 et qui vivent encore pleinement l'expérience communautaire, choisissent de vivre encore dans des hangars, de voyager, de diffuser cette musique, cette culture au travers de l'Europe et plus loin encore sur d'autres continents. Donc j'étais très agréablement surpris, parfois même la naïveté, la candeur de leur discours. Je rencontrais des témoignages que j'avais pu entendre d'ailleurs dans les années 95. Mais quelque chose d'un petit peu changé quand même, évidemment, hein, puisque la surprise n'est plus, le monde a bougé entre-temps. Quelque chose d'un petit peu changé, c'est-à-dire beaucoup plus de pragmatisme. Des membres de Sound System qui sont tout à fait prêts à négocier, on va dire, entre guillemets, à rencontrer des mairies, à rencontrer des responsables politiques, pourquoi pas, pour organiser des événements, tout en parallèlement continuant finalement sur les anciennes bases, les anciennes manières de faire, sur la clandestinité. Et je me dis quelque part qu'il y a une sorte de... c'est presque naturel que ça se fasse comme ça. Dans la techno très rebelle, celle des Free Parties des années 90, il y avait une réponse immédiate finalement à un état du monde, un état de ce monde occidental, une réponse en fait à la fin finalement d'une société industrielle industriel hérité du 19e siècle, la fin de cette idée d'une machine omniprésente et très puissante, finalement, qui écrasait les individus, celle contre lesquelles s'élevaient les grèves des travailleurs. Vous voyez, cette machine, cette usine omniprésente qui était réinsufflée dans la musique et qu'on jouait à faire revivre dans des événements festifs. Et finalement, on passait à une société où une autre forme de domination voyait le jour, celle des moyens de communication et des moyens de communication d'Internet, celle de l'information qui circule instantanément, on va dire. La techno faisait un peu la jonction entre ces deux mondes et presque c'est naturel que les choses changent aujourd'hui, que ces fêtes ne correspondent plus tout à fait à ce qu'elles ont pu être dans les années 90, parce qu'aujourd'hui, finalement, le combat se situe peut-être ailleurs, sur Internet, sur tous ces nouveaux médias qui se sont...
La génération actuelle s'est complètement appropriée, effectivement, ces nouvelles technologies, et du coup font vivre autrement le mouvement au début. Nous allons entendre tout à l'heure un artiste qui, à vos yeux, incarne une sorte de continuum avant-gardiste du mouvement techno. Il s'appelle Yanken Pop, il vient des Beaux-Arts, dans la sphère des arts numériques. Une de ses spécificités, c'est le 8-bit, des courants électro, tendance nostalgique, puisqu'il s'agit de bidouiller de vieilles Game Boy, voire console Atari même. On écoute Yanken Pop. Bonjour Yanken Pop, merci d'être avec nous. Nous sommes en ligne avec vous, vous habitez dans un petit village du côté d'Avignon et vous vous revendiquez d'une scène électro-alternative où l'utopie techno des débuts est là, en filigrane. Elle s'exprime comment ?
bonjour Elisabeth, bonjour Guillaume. Comment s'exprime la techno aujourd'hui à travers ma pratique ? Donc c'est une des influences un peu fondamentales. Je pense que politiquement, les valeurs qu'évoquait Guillaume tout à l'heure sont des valeurs d'alternative desquelles je me sens assez proche. Je me sens dans une recherche sonore et une recherche d'expérience avec un public.
Vous incarnez le courant expérimental de cette techno, finalement.
Je pense que oui, je fais partie de cette famille et je suis à la croisée de d'autres influences qui font que je suis dans une démarche qu'on peut rapprocher de la techno, mais avec quelque chose d'expérimental, tout à fait.
Le do it yourself, comme on dit. On est en studio avec un jeune musicien, Crayon. Bienvenue à nouveau. Vous êtes à l'affiche ce soir de la nuit SFR Live dans le OFF qui propose des sets gratuits sur les berges de Seine à Paris. Et alors, dans la famille enfant de la techno, vous seriez plutôt le hipster label branché, Kitsune, mix dans des clubs hype. Vous êtes né avec les free parties, donc vous ne les avez pas connus. Est-ce que vous vous inscrivez malgré tout dans cette mythologie, ou alors vous n'avez gardé que la pratique, le geste musical, la machine en fait, sans l'idéologie qui va avec?
Moi je me sens pas du tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, déjà c'est quelque chose que j'ai pas du tout connu, et puis en plus ça me parle pas vraiment parce que finalement c'est un désir de musicalité en fait. C'est des artistes, même on peut prendre un truc hyper bateau, mais Daft Punk, qui même eux finalement à force de bidouiller avec des machines, d'avoir quelque chose de techno mais limite expérimentale, ont finalement eu aussi envie de tendre vers quelque chose de beaucoup plus musical en fait. Peut-être que c'est très français finalement, puisqu'on a eu plus tard des artistes comme Yuxek, comme Breakbot, qui ont pris un peu ce côté hyper brutiste est un peu fédérateur, mais qui est finalement pas forcément ce qu'on chercherait à faire aujourd'hui derrière un ordinateur, puisque, enfin, moi en tout cas, mon but, et je pense pas du tout être le seul, c'était avant tout de faire de la musique pour moi, et de la musique que je ferais dans ma chambre et qui est destinée à aucune autre écoute que celle de musique de chambre, de quelque chose d'hyper déjà plus calme, de pas du tout club. Et donc pour moi, c'est un monde à part, et je pense que c'est juste le manque d'instruments organiques, pour rejoindre un peu ce que disait Kent au départ, qui fait que on arrive à avoir des sonorités vaguement électroniques, mais finalement ce sont des chansons en fait. Je pense que ces artistes là, quand je disais Breakbot, Yuxek et puis moi, on préférait être rangés dans les bacs pop que électro, ou en tout cas techno, qui est un style qui est pour moi qui a rien à voir.
Mais en fait, l'électro, c'est la pop du 21e siècle, finalement.
En plus, on le voit alors dans des registres un peu moins sympathiques, on va dire, mais on le voit tout le temps à la télé et tout ça. C'est complètement la pop du 21e siècle, quand on voit que David Guetta, Lady Gaga, tous ces trucs qui sont le top des charts et qui sont ce qu'un peu tout le monde écoute, c'est complètement la pop. Et même le hip-hop, même un peu tout, finalement, c'est partout. L'électro, ça veut un peu tout et rien dire maintenant. C'est juste un support.
Alors, vous avez un point commun avec Young & Pop, c'est la nostalgie. Lui reste marqué par le son de Pac-Man, les années 80. Vous aussi, vous avez bloqué sur un compositeur de musique de film culte des années 80. Petit blind test rapide. Kent, vous reconnaissez le morceau ?
Non.
C'est que vous n'avez pas été pré-ado tout début des années 80. C'est un des morceaux de la Boom. Voilà. Ah, et qui vous a inspiré, Crayon, un hommage à Vladimir Kosma.
Exactement.
Je n'avais pas reconnu Vladimir Kosma même, d'ailleurs. Même chant.
C'est vraiment ça touche au niveau des harmonies et de ce côté justement hyper... hyper romantique, mais en même temps tellement kitsch, mais qui finalement, qui est revenu, pour moi, mais pas que pour moi, quand on écoute des artistes comme Breakbot et tout ça, c'est un truc qui est vraiment présent, c'est l'amour de la mélodie et des trucs faciles, mais qui transmettent quand même quelque chose de très fort, je pense.
Crayon a les larmes aux yeux quasiment à cette évocation, et donc on écoute votre remix hommage à Kosma. Est-ce que ce n'est pas finalement une musique très générationnelle ? Est-ce que vous vous retrouvez, Kent, dans ce qu'on vient d'écouter ?
Qu'est-ce que vous entendez par retrouver ? Ça me plaît ou ça me plaît pas ? C'est tout ce que c'est comme ça que je considère la musique, quoi. Moi, ça me va. Encore une fois, on parlait de mélodie. Enfin, tu parlais surtout de mélodie, et c'est vrai que c'est là-dessus que j'y suis sensible à la mélodie, voilà. C'est ce qui fait que je ne sais pas faire de la techno, de dance et tout ça, parce que j'entends que des intros de 40 minutes, alors que je voudrais avoir un développement, un couplet, un refrain et voir des paroles dessus. Voilà, c'est pour ça, ma limite est là, quoi. Et pour en venir aux histoires de Chaos Pad dont je parlais tout à l'heure, puis d'ailleurs, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, toi, tu considérais que excuse-moi, Crayon, tu disais que tu faisais de la musique pour toi d'abord, avant tout dans ta chambre. Et c'est vrai que moi, quand je me suis retrouvé avec ce genre d'appareil comme ça pour faire cette musique là je faisais pour moi, et je me disais, mais pourquoi je l'enregistrerais? Et donc voilà, moi ça s'est arrêté là. Donc c'est marrant que la démarche continue pour toi. Moi, je fais ça, puis après je me dis, bon, c'est bon, ça suffit,
ça s'est fait, bien sûr. Ouais. C'est ce que je disais, c'est un peu comme le ready made pour l'art. C'est finalement un truc qu'on n'a même pas envie de, à la limite, d'enregistrer, mais en tout cas pas de publier ou de partager, parce que c'est quelque chose de vraiment individualiste, et la démarche en elle-même est individualiste aussi, puisque on a très peu de matériel, on fait ça vraiment comme ça, comme passe-temps, quoi.
Si je vous posais la question qui est de l'aspect générationnel, c'est parce que toute cette discussion sur l'électro m'a rappelé un titre de votre dernier album, une sorte d'expérience musicale générationnelle dont vous avez tiré une chanson qui m'amuse beaucoup. On l'écoute et après on dévoile le titre.
Starbucks, il a son profil sur Facebook, l'espèce de jeune con qui est en moi. Il boit la bière à la louche, il se laisse embrasser sur la bouche par tout le monde, le jeune con qui est en moi. Il pense que les gens de ma génération ont des pensées d'occasion, le jeune con qui est en moi. Quand il me voit dans une glace, il croit qu'un autre a pris sa place, l'espèce de jeune con qui est en moi. Ça fait 30 ans qu'il veut mourir à 20 ans pour ne pas se voir vieillir, le jeune con qui est en moi. Si une femme de mon âge me drague, il croit qu'elle s'est trompée d'étage, l'espèce de jeune con qui est en moi. Il croit que le monde entier l'attend, c'est carrément encourageant pour le vieux con qui est en moi. Mais les projets qu'il a plein la tête, il les remet à perpète, l'espèce de jeune con qui est en moi.
Racontez-nous alors la genèse de cette chanson.
Ça s'est passé au festival Rock en Seine il y a un an ou deux ans maintenant, quoi, où j'étais avec mon fils. Et bon, voilà, parce que la programmation m'intéressait et ça l'intéressait aussi. On était à ce moment-là, nos chemins musicaux se croisaient en quelque sorte. Et puis je me suis. Donc on regarde des groupes et puis on attendait le groupe du soir qui était les Arctic Monkeys, les stars du moment comme ça. Et quand les Arctic Monkeys sont montés sur scène, j'ai fait comme les 50 000 personnes qui étaient là, j'ai écrit Arctic Monkeys comme ça à fond. Et puis d'un coup je me suis arrêté et je me suis gelé, j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais le doyen, quoi. Donc je me suis dit voilà, en apparence, dans ma tête j'ai l'âge de la foule et puis en fait non, j'ai pas l'âge de la foule, j'ai plus d'années que
oui, sauf que les gens qui se passent. Les mélomanes n'ont pas d'âge.
Allez le dire ça, allez le dire à tout le monde.
Nous allons saluer Guillaume Kosmicki. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos livres, Free Party, une histoire des histoires et musique électronique des avant-gardes au dance floor, tous deux publiés aux éditions Le Mot et le Reste. Merci aussi à Crayon et merci à Young and Pop. Kent, vous restez avec nous. C'est l'heure de Brighton Calling. Brighton Calling ou la chronique un rock de la semaine orchestrée par Jean-Daniel Beauvallet, très inspiré par quelques-uns des sons que nous avons entendus au cours de cette émission, mais surtout par celui que la sonde Voyager vient de capter dans l'espace.
Hello, hello, bonjour, depuis mon bunker de Brighton, j'aimerais vous parler du cosmos. Oui, je sais, c'est assez vaste comme sujet. Quand nous étions petits, l'espace, sa conquête et ses héros nous faisaient rêver. Et je me demande bien si dans les écoles, il reste des gamins pour se dire « Quand je serai grand, je serai astronaute, cosmonaute, spationaute ou taïkonaute ». Oui, depuis quelques crashs trop célèbres, quelques coupes de budget et la militarisation de l'espace au-dessus de nos chères têtes blondes, je ne suis pas du tout certain que l'espace fasse encore rêver. Et pourtant, la sonde Voyager 1, évadée de notre système solaire depuis plus d'un an, a enfin envoyé du son déniché dans le grand inconnu. Oui, l'espace intersidéral, c'est assez sidérant, dans lequel elle se balade et puis désormais du haut de ses grandes oreilles électroniques. Bon, ok, ce n'est pas encore le gros son d'une rêve venue d'une planète à découvrir, pas encore le Johnny Hallyday du cosmos, pas une chanson à quelques notes comme celle que jouait François Truffaut dans Rencontre du troisième type. Mais quand même, c'est la première fois que l'on entend un son venu de si loin. Et tant pis finalement si ce petit bruit de hulotte enregistré et diffusé par la NASA ne serait en fait que l'écho lointain d'une éruption solaire. Ça vient de l'espace intersidéral quand même et ça fait un sacré import. En France, on n'a pas attendu 2013 et les transmissions psychédéliques de Voyager 1 pour entendre le son du cosmos. Dans les années 70, parallèlement aux recherches effectuées en même temps par quelques Allemands chevelus ou une poignée d'Italiens illuminés, des scientifiques soniques, avec leurs drôles de machines, enregistraient une musique totalement onirique et spatiale qui finissait souvent sur des BO de films. C'était une musique pour son époque, utopique, progressiste et optimiste, qui croyait à la science, qui pensait s'être sortie grâce à elle de l'obscurantisme. Quelle naïve! C'est une époque qui fait aujourd'hui rêver une génération entière de musiciens français qui, comme Zombie Zombie, pratiquent allègrement le rétro-futurisme, se réfugient dans une science-fiction 70s aux prédictions malheureusement erronées pour tenter d'y retrouver cette fraîcheur, cet enthousiasme, cette naïveté qui manque sans doute un peu trop à leur réalité. En anglais, ça s'appelle l'escapism, une grande évasion, sauf que pour eux, l'évasion, c'est dans le cosmos, histoire de bien claquer la porte au quotidien. Bref, on vous parle ici de musiciens qui préfèrent les petits hommes verts à une vie trop grise, comme M83 par exemple. Le grand, l'unique, l'érudit Uncle O propose aujourd'hui une compilation de ces musiciens français issus de ces années 70 de tous les possibles. On y retrouve, en pleine crise existentielle ou expérimentale, des musiciens qui deviendront célèbres ou au moins influents plus tard, comme Patrick Juvet, Chéron ou Jean-Jacques Perret. Tous cherchent avec leurs petits outils, certains même fabriqués à la main, une porte d'entrée dans le cosmos, un visa pour l'ultime frontière. Mais la vraie surprise de cette compilation Cosmic Machine, c'est celle d'un homme qui chantait 2001, Un pied sur la lune, plus connu pour une autre chanson. Au nord, c'était les Corons. À moins que ce ne soit, à l'étoile du nord, c'était les Corons. Oui, Pierre Bachelet a lui aussi exploré le cosmos, visité l'espace intersidéral, trippé grave dans sa petite fusée, à une époque où il découvrait, dans les années 70, la musique électronique. C'est donc avec son Motel Show que je vous dis bye bye en faisant un geste très compliqué de reconnaissance avec mes doigts, celui-là même qu'utilisent les extraterrestres que je connais pour se dire à bientôt dans le futur, car les extraterrestres, contrairement à nous, eux, croient au futur.
Et voilà Jean-Daniel Beauvallet qui, dans son bunker anglais, nous déniche des pépites. Vous saviez que Bachelet, Kent, avait fait de la musique à la Jean-Michel Jarre dans les années 70.
Non, non, mais je comprends la tentation en même temps. Les découvertes de ces nouveaux synthés et tout ça, ça n'a pas créé tout des vocations, ça a aussi fait des bouses, on va dire.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kent, pour cette émission. Je rappelle donc que sort après-demain une nouvelle édition limitée du Temps des âmes, votre dernier album, 6 titres inédits live. L'album sort aussi en vinyle. On a entendu deux titres de cet album au cours de l'émission, Jeune con tout à l'heure, Inénarrable, et Ombre berlinoise. Et vous serez en concert le 7 octobre au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris avec Marc Haussmann. Le 26 octobre à l'Escar aussi dans les Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du festival Octobre à l'Escar. Je rappelle aussi à l'agenda que pour les Parisiens, la nuit SFR Live, c'est ce soir avec un line-up de premier choix, Vitalik, Superpose, Crayon. Très belle programmation électro aussi au festival Electricity qui se déroule en ce moment à Reims. Et nous allons refermer l'émission avec un titre électro qui va réconcilier tout le monde, les minimalistes allemands, les mélodistes. Il est signé Shigeto, un Américain d'origine japonaise qui fait une sorte de musique de chambre électronique, rythmique fracturée, texture mélodique particulièrement onctueuse. On écoute Ann Arbor, Part 3 and 4. We'll be right back. Sur Écoute, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Perret Legras, préparée par Anne de Biran, à la technique Jean-Frédérix. Merci également à Antoine Vuillos du service discographique de Radio France. J'en profite pour vous recommander chaudement Face B, sa playlist hebdomadaire, disponible sur le site de France Culture. À la semaine prochaine.